RFI 7h30, à Paris 6h30 à Kinshasa. Bonjour Vincent Dublange.
Bonjour Julien, bonjour tout le monde.
On avance, mais à vitesse réduite, le début de ce journal en République démocratique du Congo.
Oui, prudence Julien, quand on parle des épineuses négociations en cours entre RDC et Rwanda d'un côté, à Washington, et RDC M23 de l'autre, à Doha, au Qatar. Explication détaillée sur nos espaces numériques et en plus concis dans un instant. Dans cette édition, on sera à Bangui aussi, on va tenter d'y voir clair. Est-ce qu'il y aura ou non des élections locales fin août? Rien n'est moins sûr. Un mois, sans voix au Niger, trois journalistes de la radio Sahara FM, toujours gardés à vue sans qu'aucune procédure officielle judiciaire ne soit lancée. On va vous expliquer aussi pourquoi couper la corne d'un rhinocéros peut, paradoxalement, le sauver. Et puis le journal des sports dans 10 minutes. La déception, mais l'espoir d'une équipe en construction de la part du défenseur des Panthères gabonaises, Bruno Ekwelemanga, après la défaite en amical 4-3 face au Niger hier. RFI y était. Mais d'abord donc, démêlons les chevaux des négos pour commencer ce journal. Les négociations sur le conflit dans l'est de la RDC autour de la résurgence et de l'avancée de l'AFC M23. Le mouvement contrôle plusieurs zones des territoires du Nord et du Sud Kivu, dont ces deux grandes villes que sont Goma et Bukavu. L'AFC M23 qui est directement appuyé par le Rwanda, selon de multiples rapports d'experts de l'ONU, entre autres. Pour tenter de trouver un cessez-le-feu, puis une paix durable, il y a eu de nombreuses tentatives diplomatiques. Les deux dernières en date, à Doha, au Qatar, entre délégués du pouvoir de Kinshasa et représentants du M23. D'après nos informations, on voulait donner dès jeudi soir, les délégations des autorités congolaises et du M23 sont rentrées à la maison avec une proposition de la médiation qatarienne, mais on est encore loin d'un accord. L'autre processus, c'est celui des discussions directes entre la RDC et le Rwanda, et c'est Washington qui est à la manœuvre. Il y a eu une brusque accélération en avril, typique de la politique façon Trump, mais où en est-on aujourd'hui, Passion Ligodi?
Depuis le 25 avril, date de la signature de la déclaration de principe à Washington, les choses avancent mais prudemment. Un premier projet d'accord ou draft avait été rédigé en s'appuyant sur les bases des négociations menées à Luanda sous médiation angolaise. À cela se sont ajoutées des contributions nouvelles issues des attentes de Kinshasa et de Kigali. Aujourd'hui, c'est un deuxième document de travail, une version révisée qui circule entre les parties. Ce texte devrait servir de base aux prochaines discussions. Selon nos informations, des délégations techniques congolaises et rwandaises sont attendues à Washington la semaine prochaine. Objectif, défendre leurs positions respectives avant d'envisager une rencontre formelle entre les ministres des Affaires étrangères. Mais dans la région, la prudence reste de mise. Après les échecs passés, plusieurs diplomates insistent, il ne faut pas se précipiter. Il faut, je cite, aller au fond de choses, consulter tous les acteurs et aboutir à un accord qui tienne dans le temps. Un autre diplomate occidental en poste à Kinshasa ajoute que Washington doit aussi accompagner les dynamiques locales et sous-régionales déjà en cours. Pour lui, il faut éviter que ce processus ne soit perçu comme un schéma imposé de l'extérieur.
Sachez aussi que la proposition de grand dialogue des églises catholiques et protestantes congolaises pourrait avoir lieu bientôt. En tout cas, les religieux devraient prochainement être reçus par le président Tshisekedi, selon nos informations. Ce serait l'une des potentielles retombées concrètes de la rencontre entre le chef de l'État et Martin Fayoulou jeudi. On parle ensuite d'un dialogue potentiellement qui pourrait, on reste en conditionnel, hein, donc qui pourrait avoir lieu en juillet avec médiation des religieux congolais et du Togo. Il est 6h quasiment, 34 minutes à Kinshasa. Merci d'écouter RFI. Des réactions encore ce matin après l'annonce en début de semaine du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC, qui a interdit aux médias de donner la parole au parti de Joseph Kabila pour toute question relative aux affaires judiciaires en cours. Mais le CESAC n'est pas compétent en la matière, dit ce matin l'Union nationale de la presse du Congo, présidée par notre ancien collègue Kamanda Wakamanda Muzembe.
On demande au CESAC de rester dans ses prérogatives et non d'empiéter sur l'autorégulation que nous représentons. Ce n'est pas de son ressort d'empêcher la médiatisation des activités d'un parti politique parce qu'il y a le ministère de l'Intérieur qui peut prendre des décisions administratives quand il y a une dérive dans le comportement d'un parti politique. Il y a aussi la justice qui a ses prérogatives et qui doit prendre une décision. C'est pas au CESAC de décider comme ça en lieu et place de ceux qui ont dans leur rôle le prérogatif de sanctionner un parti politique ou sanctionner des acteurs politiques. Bon, c'est une censure qui ne dit pas son nom, mais c'est une façon d'interdire de parler. Il faut couvrir les activités de tous les partis politiques, mais on ne va pas faire leur propagande. Les journalistes doivent respecter l'éthique et la déontologie. C'est ça. On veut absolument que chacun joue son rôle.
propos recueillis, paramilitaires Tulet. Plus de Wagner, mais toujours des paramilitaires au Mali. Africa Corps remplace officiellement le groupe privé fondé par le défunt Evgeny Prigogine. Annonce du groupe Wagner lui-même, pas confirmé à Bamako, mais il faut dire que la junte ne reconnaît la présence que d'instructeurs russes sur le terrain. Africa Corps, qui est une structure complètement sous contrôle du ministère russe de la Défense. Des paramilitaires russes en Centrafrique seront-ils amenés, tiens, cette année à sécuriser des élections locales? Ces scrutins sont annoncés régulièrement depuis des années, mais jamais concrétisés. Cela fait près de 40 ans qu'ils n'ont pas eu lieu, ces scrutins locaux. On était alors sous André Kolingba. Cette fois, ces élections sont annoncées pour le 31 août, sauf que cela va se télescoper forcément avec un autre objectif bien plus majeur pour la fin de l'année, la présidentielle et les législatives. Décryptage RFI, François Mazet.
Selon le chronogramme des élections, la liste électorale définitive et le décret de convocation des électeurs auraient déjà dû être publiés. Ce n'est pas le cas, déplore le réseau Arc-en-Ciel, regroupant 15 des principales organisations de la société civile centrafricaine. Joseph Bindoumi est le chef de la mission d'observation électorale de cette plateforme.
Nous avons annoncé des élections locales depuis 4 ans et à chaque fois, nous avons mis ces élections locales-là de côté, nous avons organisé le référendum, puis nous continuons de fermer les yeux de ce côté-là, alors que nommer les membres des communes par décret ne nous donne pas de signe d'un État qui avance vers un processus où la parole est au peuple. Il y a quelque chose qui ne va pas de ce côté.
Le 17 mai, l'Assemblée a voté une dérogation au code électoral. Les autorités comptent impérativement organiser la présidentielle et les législatives en toute fin d'année. Alors les élections locales peuvent-elles être couplées à ces scrutins, ce serait une grosse erreur selon Joseph Bindoumi.
Non, ça ne peut pas marcher parce que vous savez que dans ces pays qui déjà souffraient lorsqu'il n'y avait que deux élections à organiser à la fois, nous sommes certains que si on prenait le risque, nous aboutirions à des élections soit bâclées, soit dans un cafouillage qui ne nous ferait pas rendre crédibles les résultats qui sortiront des urnes.
Le réseau Arc-en-Ciel demande au gouvernement et à l'autorité nationale des élections de tout mettre en œuvre pour éviter un report. Ni l'un ni l'autre n'ont souhaité répondre vendredi à ces inquiétudes.
Un rapport de l'ONU accuse le Maroc de violer les droits des habitants du Sahara occidental. Le document pointe des déplacements forcés de Sahraouis sur la côte atlantique, des maisons détruites, incendiées pour laisser place à des projets touristiques ou énergétiques. Rabat dément et parle de politisation des instruments onusiens. Dernièrement, de plus en plus d'États se tournent vers le Maroc, reconnaissent sa souveraineté sur le Sahara occidental, le dernier exemple. En date, c'est le Ghana cette semaine. Les détails sont à lire sur l'appli RFI. Vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale, 6h38 à Niamey et à Agadez. Cela fait un mois que les journalistes, trois journalistes précisément de Sahara FM, sont en garde à vue au Niger. Ils ont été arrêtés une première fois à Agadez. Ils sont alors relâchés quelques heures plus tard, puis de nouveau interpellés et transférés à Niamey, où ils sont toujours. On fait le point avec Eva Massi.
Arrêtés deux fois en quelques jours, les trois journalistes de Sahara FM, dont une femme, sont en garde à vue depuis bientôt un mois. Ce vendredi, Ibrahim Diallo, le promoteur d'Aïr Info à Agadez et Sahara FM, a pu leur rendre visite.
Ils sont très bien traités à la gendarmerie, ils n'ont aucun problème, mais c'est seulement l'incertitude de ce qui va leur arriver. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été présentés devant le juge depuis Agadez. Aucun interrogatoire ne leur a été fait. C'est une longue attente. Un mois, 30 jours, c'est trop pour une interpellation, pour une garde à vue. Donc ils attendent dans l'anxiété, comme on le dit.
Les trois journalistes avaient relayé une information du site LSI Africa, selon laquelle la Russie et le Niger pourraient mettre fin à leur coopération sécuritaire. Le chef du bureau Afrique de la Fédération internationale des journalistes, Louis Tomasi, appelle les autorités de Niamey à libérer les trois journalistes sans condition.
Il s'agit de harcèlement et d'intimidation. Ils cherchent à envoyer un signal à tous les autres journalistes. Même certains journalistes que nous connaissons évitent de nous envoyer des informations impliquant directement le régime. Nous appelons donc les autorités à respecter les libertés fondamentales.
L'association nigérienne de lutte contre la corruption a elle aussi dénoncé l'arrestation de Hamid Mahmoud, Massaouda Jaharou et Mahaman Sani en appelant à leur libération.
Le Niger, le Mali, le Burkina, le Tchad, le nord du Cameroun ou le nord-est du Nigeria. Près de 29 millions de personnes ont besoin urgent d'aide humanitaire et de protection au Sahel. C'est ce qu'affirme le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. L'OCHA qui en appelle aux donateurs et qui prévient, Magali Lagrange, des vies sont en jeu si les fonds nécessaires ne sont pas réunis.
2 millions de réfugiés, 6 millions de déplacés internes au Sahel, chiffre en hausse de 6 et 20% depuis début 2024 selon OCHA. Des déplacements de population liés à différentes crises qui s'entremêlent, insécurité, pauvreté, instabilité politique, conséquences du changement climatique. Entre juin et août, OCHA estime à plus de 12 millions le nombre de personnes qui seront confrontées à l'insécurité alimentaire dans la région sahélienne. L'an dernier, la plupart des incidents sécuritaires se sont produits au Sahel central et dans le bassin du lac Tchad. Ils ont fait près de 17 000 morts et entraîné la fermeture d'environ un millier de centres de santé, de près de 10 000 écoles, dont plus de la moitié au Burkina Faso. Les conséquences des crises sahéliennes dépassent les frontières de cette région, alerte OCHA, et débordent vers les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, dont les régions nord accueillent 159 000 réfugiés. Pourtant, les fonds manquent pour faire face. Il faut plus de 4 milliards de dollars pour répondre aux besoins humanitaires urgents de plusieurs millions de Sahéliens. Le chef du bureau régional d'OCHA rappelle qu'il ne s'agit pas d'équilibrer un livre de comptes, mais de sauver des vies humaines.
Du gaz lacrymogène, des journalistes brièvement interpellés. Il y avait de la tension à Lomé hier au Togo. Important dispositif de sécurité déployé lors de manifestations contre le régime, rassemblement plutôt rare bien sûr ces dernières années au Togo, une mobilisation qui entendait dénoncer des arrestations ciblées, la hausse du prix de l'électricité ou encore la réforme constitutionnelle qui a renforcé récemment le pouvoir de Faure Gnassingbé. Il est 8h41 à Mamoudzou, le projet de loi pour la refondation de l'archipel de Mayotte porte atteinte à certains droits parmi les plus fondamentaux, c'est ce que dit à Paris la défenseur des droits. Elle préconise d'abandonner ou de réviser certaines dispositions du texte. Couper la corne sous le pied des braconniers en Afrique du Sud, une étude montre que la pratique sauve des rhinocéros. Une étude publiée dans la revue Science qui a été menée entre 2017 et 2023 dans le parc Kruger dans le nord-est de l'Afrique du Sud. Le résultat, Igor Strauss, moins 80% de braconnage.
En Afrique du Sud, au moins 34 rhinocéros sont tués chaque mois, selon le ministre de l'Environnement, dans un pays qui comptait encore 16 000 rhinocéros à la fin de l'année 2023. Mais ni les 74 millions de dollars dépensés entre 2017 et 2023 pour protéger cette espèce, ni le déploiement d'éco-gardes n'a empêché cette chasse illégale. Au cours de cette période, près de 2 000 rhinocéros ont été braconnés pour leurs cornes, considérées à tort comme aphrodisiaques dans de nombreux pays asiatiques. En revanche, l'écornage de plus de 2 000 rhinocéros s'est traduit par une réduction de 78% du braconnage. Et l'étude souligne que les effets de l'écornage sur la biologie des rhinocéros ne sont toujours pas clairs, mais que cette pratique n'a aucun impact sur leur survie et leur reproduction. Cependant, précisent les chercheurs, il faut procéder à un écornage régulier, car la pauvreté incite un grand nombre de personnes vulnérables à rejoindre des organisations criminelles pour braconner. Ainsi, des rhinocéros écornés ont été abattus par des braconniers ciblant leur moignon et la repousse de leur corne. Sur le marché noir, le prix de la corne de rhinocéros est proche de celui de l'or et de la cocaïne.
Merci Igor Strauss, et c'est à vous Julien Coquerel.
Merci.